Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une jeune femme qui s'est accrochée à son rêve d'adolescente et qui le construit petit à petit pour aujourd'hui le savourer et le vivre pleinement, avec ses hauts et ses bas.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Hajar Belkacemi, bonjour.
Bonjour Yasmine, comment vas-tu?
Bien, merci. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Chabar Kalala Hajar.
Merci à toi de me recevoir. Ça va plutôt bien ce matin, tout va bien, alhamdoulilah.
Sur un plateau de tournage, c'est bien ça?
Dans un bureau de production en préparation pour un tournage.
Ok, ça c'est ton rêve de petite fille?
C'est mon rêve d'adolescente. C'est venu un peu plus tard, c'est mon rêve d'adolescente.
Et ça ne t'a jamais fait peur, ce monde-là, celui du cinéma, des plateaux, de la production, du travail à toutes les heures, de ne pas avoir de week-end? J'ai tout mis dans...
Alors,
dans...
à moi, non, ça ne m'a pas fait peur, mais je n'avais pas toutes ces informations au moment où j'en rêvais.
C'est vrai?
Non, je n'avais pas toutes ces informations et à moi, ça ne m'a pas fait peur. J'ai dû vendre mon projet à mes proches, à mes parents. Mais maintenant que j'y suis, je ne le regrette pas et je crois que personne autour de moi ne le regrette.
C'est ça. Alors justement, c'est un monde dans lequel tu as plongé très tôt, tu t'es donné corps et âme pour ça. Est-ce que on arrive à gagner sa vie dans le cinéma au Maroc? Est-ce que tu arrives à gagner ta vie, à être une femme indépendante à travers le cinéma au Maroc?
Alors c'est une bonne question, mais ma réponse sera simple et claire. La réponse est oui. Me décider de faire du cinéma, c'est arrivé très tôt à l'adolescence. Faire des études de cinéma était compliqué à vendre à mes parents qui avaient justement peur de cet aspect-là, de me former à, comme a dit mon père, me former à un chômage.
C'est vrai?
Exactement.
Quand tu lui en as parlé la première fois, il t'a dit tu vas aller te former, il avait peur?
Alors ce qui s'est passé, c'est que je faisais des cours de cinéma quand j'étais au lycée et en terminale, au bac, mon père me dit alors qu'est-ce qui se passe l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux étudier? Je lui dis je veux faire du cinéma et il m'a dit non, je ne te parle pas de tes hobbies, je te demande ce que tu veux étudier. C'est des hobbies et il n'était pas trop partant pour ce domaine. Mmh. Et finalement, j'ai passé un concours dans une école de cinéma ici au Maroc, à Marrakech. Et j'ai été classée première au concours. Du coup, je crois que ça a un peu nuancé la vie de mon père. Il m'a dit, écoute, finalement, si tu es très bien dans un milieu que moi, je considère médiocre, je préfère ça que tu sois médiocre dans un milieu que moi, je considère très bon. Mmh. Et j'ai trouvé cette phrase assez sympa comme motto. Et du coup, justement, il avait peur de cet avenir-là, de l'avenir du quel était mon avenir dans ce milieu qu'on ne connaissait pas, qui n'est pas dans la famille. Et finalement, après mes études, alors ça a été compliqué de trouver ma place et de rendre ça un boulot qui est comme gagne-pain et qui me permet de vivre indépendante et sans aucun besoin. Mais alors d'abord, c'est possible. Et ensuite, c'est une petite industrie qui, quand on y entre et qu'on fait des efforts et qu'on travaille sérieusement, ça paye et ça paye plutôt très bien.
Alors justement, pour se faire sa place... Ça a été quoi ton arme, Hajar, justement? Au-delà de la persévérance et au-delà du sérieux.
Alors, je crois qu'il y a un concours de circonstances entre le sérieux, la persévérance. Il y a eu un facteur chance aussi de tomber sur la bonne personne. Je suis sortie de l'école de cinéma, j'ai travaillé sur des petits projets, je chômais beaucoup plus que je ne travaillais. Et puis évidemment, dans mes périodes de chômage, j'envoyais jusqu'à 100 CV par jour. Et je peux te dire maintenant que 10 ans plus tard, je m'en rappelle très très bien, je n'ai reçu qu'une seule réponse.
Ah oui?
Mais il s'avère que cette réponse est venue de la bonne personne au bon moment. J'ai été mentorée toutes ces années par une des plus grandes productrices marocaines. À l'échelle internationale. Donc, mon CV est tombé dans une boîte email de Madame Khadija Alami, qui a pris le temps de lire mon CV, de me répondre et de me proposer un premier poste de stagiaire.
Voilà. Alors, c'est une femme qui t'a donné ta chance.
Exactement. J'ai presque chômé pendant 2 ans en faisant des petits projets personnels, en essayant de me développer. J'avais du mal à rester inactive et puis je devais surtout prouver à mon père qu'il avait eu tort.
Ça devait être dur psychologiquement quand même.
Exactement. Donc, j'étais dans une situation où j'étais en échec. Et je ne voulais pas l'assumer. Donc, je pense que c'était une très bonne situation parce que ça m'a permis de me relever. Et donc, ça m'a donné beaucoup de force et beaucoup de persévérance. Et puis, j'ai entendu parler de cette dame qui est très importante et très connue dans le domaine. Et je me suis dit, tiens, ben, au petit bonheur, la chance, je vais envoyer mon CV qui n'était pas très rempli à ce moment-là. Et puis, j'ai eu une réponse dans l'heure qui a suivi où elle a transmis mon CV à ses directeurs de production. Et 10 ans plus tard, bah, je suis directrice de production
Chez
avec
elle,
elle.
avec elle. Donc ça a été le premier job et depuis, tu es resté avec elle.
Exactement. Alors j'ai travaillé avec plusieurs. Je suis en freelance, donc j'ai
Ouais.
travaillé avec plusieurs productions. On travaille dans le cinéma international au Maroc. On fait de l'exécutif, donc on fait des gros tournages étrangers, américains principalement et anglais, qui sont tournés au Maroc. Et donc il y a quelques boîtes de production qui font ça. Et je suis tombée sur la bonne personne avec le bon esprit de management et de mentoring et qui m'a fait évoluer. Donc j'ai travaillé pour plusieurs boîtes de production, mais je me fidélise avec celle-ci car c'est celle où je me sens le mieux.
Ok. Alors justement, je veux revenir avec toi sur deux points. D'abord, ces 2 ans de chômage. Comment tu as fait pour gérer psychologiquement la pression, le fait de ne pas travailler, le fait d'avoir été brillante dans tes études et de ne pas avoir trouvé de boulot, le fait d'avoir ton papa qui était, il fallait lui démontrer qu'il avait en quelque sorte tort.
Exactement.
Et puis après, on va revenir au mentoring féminin. Comment tu as
Alors,
géré cette phase-là?
pendant ces 2 ans, alors il y avait l'aspect pénible parce que j'ai fini mes études assez vite. Je sais que c'était un domaine, je savais que ce n'était pas un domaine d'études où il fallait s'étaler sur des très longues études. Donc j'ai fait une licence, bac plus 3, en montage, où j'étais aussi majeure de promotion à la fin de mon diplôme. Donc je m'attendais au moment de recevoir mon diplôme, on nous avait mis dans la tête qu'en sortant de l'école, on allait se battre pour nous avoir, car on était la génération de demain, les techniciens du cinéma de demain, formés dans l'une des meilleures écoles africaines. Et en sortant de là, ben, le gros plouf, il se passe rien. Et
Et pour
j'avais
toi,
fait
c'est
une
dû à
partie
quoi,
école.
justement? Pardon. Pour toi, c'est dû à quoi, ce plouf?
Un domaine assez opaque a priori et un domaine de networking et de réseautage. Et quand on a 21 ans sans contact et qu'on n'a personne dans son entourage qui est du domaine, c'est très compliqué de savoir à qui s'adresser. Et donc en sortant, j'ai fait une sortie d'école assez excellente où j'étais majeure de promotion, où j'ai eu mon film de fin d'année en compétition dans une catégorie ciné-école au Festival de Marrakech. J'ai fait le tour de plusieurs festivals en Europe. Et en revenant, je pensais que tout était déjà acquis et que j'étais arrivée. Sauf que là, il me manquait les contacts qui allaient avec. Donc, il y avait les réveils difficiles, se réveiller, ne pas avoir d'objectif dans la journée, avoir 21 ans, avoir mes amis qui sont tous à l'étranger, étudiants et qui profitent de la vie. Et moi, confrontée très vite à cette réalité de devoir chercher un travail et puis être indépendante, parce que c'est comme ça qu'on a été éduquée. Et je suis dans une famille de 3 filles, je suis la plus jeune. Et donc, j'avais 2 super modèles en face de moi. Donc je crois que ça a été compliqué, mais ça a été aussi ma force parce que justement, ça m'a motivée. Pendant les 2 ans, je parle de chômage, mais il n'y a pas eu de réel chômage parce que j'ai développé des projets personnels. Au bout d'un moment, à force de toquer aux portes qui ne s'ouvrent pas, j'ai fini par en créer une. Donc je me suis lancée. J'ai quand même eu pas mal de rencontres positives où je me suis lancée dans un projet personnel de me dire qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le cinéma, tu aimes les caméras, tu aimes les enfants. Donc je me suis lancée dans un projet personnel que j'ai développé qui était un concept de faire des vidéos de classe au lieu d'avoir des photos de classe. Donc j'ai passé déjà une année dans une crèche où je passais mes journées dans des salles d'école avec des enfants de 1 à 4 ans et je faisais mes propres petites vidéos que j'avais beaucoup de plaisir à monter à ensuite vendre aux parents.
Oui, et ça prenait bien, ça marchait bien.
Ça a marché très 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 bien et
Ouais.
c'est une des périodes les plus heureuses de ma vie. Donc finalement, le chômage m'a plutôt bien
C'est
réussi.
super.
J'ai eu aussi pas mal de rencontres positives où un ancien de mes profs de lycée m'a fait intervenir dans le lycée où j'ai eu mon bac comme professeur où j'enseignais le montage. C'est-à-dire que j'ai chômé dans ce que je voulais faire, mais j'ai maintenu mon cerveau actif et j'ai fait en sorte de ne pas sombrer dans les déboires du chômage qui sont un peu pénibles, les mauvais réveils, et puis les journées très longues, et puis les très longues nuits surtout, parce que c'est là où on se remet en question
Question
beaucoup.
absolument.
Donc ça a été des cycles et des phases, mais grosso modo, avec un noyau familial et une motivation, et puis des concours de circonstances, on finit toujours par s'en sortir. Donc je dirais que j'ai eu peut-être 2 années un peu compliquées, et puis quand les portes s'ouvrent, elles s'ouvrent plutôt bien, et après ça ne dépend que de nous.
Et puis il y a quand même cette bienveillance aussi de l'entourage qui est importante, c'est-à-dire pour les personnes qui sont dans la même situation que toi aujourd'hui, il faut éviter de se faire enfoncer par les proches. Et dans ton cas, c'était pas
non,
le cas.
Non, pas du tout. Alors pas du tout. Moi, quand je parle de mon père, j'ai eu un très bon exemple. Mon père est un scientifique qui ne parle que par la science. C'est quelqu'un qui a réussi sa vie grâce aux études. Et donc, je peux comprendre d'où il vient.
Oui.
Et je valorise son attitude vis-à-vis de moi parce qu'il a émis une opinion et il ne m'a jamais empêchée. Il m'a toujours dit, moi, je te donne mon opinion, mais c'est ta vie, à toi d'expérimenter. Donc, même s'il a eu un peu cette réaction, il ne m'a jamais démonté le moral. Et d'ailleurs, il y avait une très grande pudeur pendant ces 2 années de chômage où jamais mon père n'a abordé le sujet. Je crois que c'était encore plus douloureux de ne pas avoir quelqu'un qui nous gronde,
oui,
et d'avoir juste quelqu'un qui attend que ça passe et qui espère pour sa fille. Et puis en fait, j'avais le soutien de ma mère qui, elle, était à fond derrière moi et qui était très motivée par le domaine que j'ai choisi, mes sœurs pareil. Donc oui, il y avait une sorte de bienveillance de la part de mon entourage. Je crois que j'ai été chanceuse. Mais je crois aussi que quand on est face à des contraintes, parfois c'est aussi des moteurs de motivation.
Alors, le mentoring féminin aussi, cette femme qui t'a donné ta chance, cette femme, la seule à avoir répondu sur combien de demandes, tu avais dit, Hajar ?
Oh, des milliers.
Des milliers, c'est
des milliers. Je ne savais plus à qui adresser mes CV. Je les ai adressés à toutes sortes de structures et de personnes physiques et d'agences de communication, de chaînes, de boîtes de production, mon CV a dû circuler un peu partout et puis il n'était pas très rempli vu qu'il fallait bien commencer quelque part. Et puis un beau jour, j'entends parler de cette dame et je ne savais pas, même moi je ne savais pas. Je me suis renseignée un petit peu, j'ai trouvé son adresse email, j'ai envoyé un peu comme une bouteille à la mer et puis j'ai reçu cet email. Bonjour Hajar, j'ai bien reçu ton CV, je le communique et je mets en copie mes 2 directeurs de production. Nous avons 2 tournages simultanés en ce moment. Et puis elle s'adresse aux 2 directeurs de production en leur disant, voilà, si vous cherchez une jeune assistante au bureau, recrutez cette personne qui a pris la peine d'envoyer un CV avec un corps de mail correct. Et puis un des 2 directeurs m'a contactée dans la semaine qui suivait et depuis, je ne me suis plus arrêtée.
Excellent.
Donc
excellent.
Comme quoi ça arrive, il faut y croire.
Alors justement, les femmes qui aident les femmes, est-ce que c'est courant dans le milieu du cinéma, de la production ?
Alors, je ne spécifierai pas cette discussion par rapport au milieu du cinéma. Je dirais que le milieu du cinéma en majorité est très masculin, déjà. Mais dans la vie et dans l'absolu, les femmes peuvent être les meilleurs mentors pour les femmes et les femmes peuvent aussi être le pire ennemi de la femme.
Exact.
Parce que justement, quand on est en minorité, ça crée une sorte de fausse compétition. Et donc je dirais que moi j'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a mentorée et une femme avec des super qualités de management et des super qualités humaines. Et puis oui, je pense que le fait que ce soit une des rares femmes à faire ça au Maroc et puis à ce degré-là où c'est une productrice qui a ses propres studios de tournage, qui fait partie de l'Académie des Oscars à Los Angeles, qui travaille dans le domaine depuis 30 ans, elle a eu le bon rôle de mentor. Après, pour parler des femmes en général, on trouve de tout. On trouve des femmes soudées, solidaires, qui se tirent et qui justement comprennent la complexité d'être une femme dans ce domaine et qui donc sont soudées et unies face aux problèmes du travail. Et puis, on trouve aussi les femmes qui occupent des postes et qui ont tellement peur qu'on arrive leur arracher ce poste qu'elles ne sont pas les meilleurs mentors du monde.
Ouais. Il y a de tout,
mais
en fait.
Mais je crois que ça s'applique un peu partout.
Je ne généralise pas
sur ce sujet. Alors, il y a encore cette impression qui est incrustée un peu dans les mentalités. D'ailleurs, ce que j'apprécie, c'est que là, sur les projets sur lesquels on travaille, on essaye de ramener de plus en plus de stagiaires caméras, stagiaires électriciennes, stagiaires machinerie en femmes. Parce que justement, je pense qu'un homme n'aurait pas eu cette approche, mais une femme productrice est dans cette dynamique de vouloir recruter de plus en plus de femmes. Effectivement, c'est un domaine qui combine beaucoup de départements, certains techniques, certains d'organisation, de logistique, et on retrouve beaucoup plus de femmes dans les bureaux de production qui nécessitent une organisation, une logistique, une communication claire par email. Et puis sur le terrain, on va retrouver beaucoup plus d'hommes parce que c'est des conditions de travail difficiles, c'est de très longues journées, c'est en extérieur, quelle que soit la météo. Et peut-être que d'abord, les femmes ne s'y intéressent pas beaucoup et puis peut-être qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans le marché. Mais effectivement, j'apprécie beaucoup que cette dynamique soit en train de changer et que maintenant, dans un plateau de tournage où on a 400 personnes, on va retrouver de plus en plus de femmes. Et Inch'Allah, de plus en plus de femmes en chef de poste.
Alors justement, par rapport à ce rythme qu'impose la prod, la production, ces métiers-là, ça fait peur aussi à certaines femmes de ne pas pouvoir avoir une vie à côté. Est-ce que Haja...
Tu as raison.
Oui,
je dirais Haja, raison.
Haja, tu as une vie à côté du boulot, tu as une vie à toi, une vie privée, personnelle.
Alors, à raison, parce que ça, c'est ce que je découvre, c'est ce que je découvre tous les jours depuis 10 ans. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis à Rabat. Alors, c'est un boulot qui nous déplace souvent dans le Maroc, qui m'a aussi déplacée à l'étranger, où j'ai travaillé en Arabie Saoudite pendant 6 mois. C'est un métier où notre téléphone sonne, on vous parle d'un projet, et puis vous ramassez vos affaires, et vous allez là où le projet se passe.
Donc, pas avoir d'attache.
Alors moi, pour moi, c'est l'inverse. Moi, il faut avoir des attaches et je crois que pour vivre sereinement ce travail, il faut avoir une vie en dehors de ce travail. Il faut faire les projets en se disant, il y a une date de début, une date de fin, je ne dois pas me rater parce que c'est la seule impression que ces gens auront sur moi. C'est pas comme si j'avais un boulot sur l'année. J'ai 6 mois où je dois tout donner parce qu'ils vont partir, les clients vont repartir à l'étranger et je dois les avoir bien reçus dans mon pays. Donc, mais ce que je me dis dans ma tête, c'est que là, je suis sur un projet depuis le mois de septembre. Je sais qu'en mars, je rentre chez moi, je retrouve mes amis, je retrouve ma famille. Et puis, j'essaye de construire ma vie privée en parallèle. Ça, la question à se poser, c'est pas est-ce que moi, je le vis bien, c'est est-ce que je rencontre des gens qui sont capables d'accepter une femme de ce genre.
Alors, est-ce que tu rencontres des hommes qui sont capables d'accepter une femme comme ça, qui disparaît pendant 6 mois?
Alors, de par mes expériences, je te répondrai très sincèrement, très peu.
Ouais.
C'est très difficile de faire durer des relations sur le temps, de par la personnalité, ou souvent d'ailleurs le domaine. C'est souvent le domaine qui pose problème parce que ça s'essouffle.
Il faut avoir
beaucoup d'endurance pour attendre et se mettre à distance. Quand on me rencontre et que je suis entre deux projets, je suis Hajar. Quand je commence un projet, je suis dans la prod et je n'ai plus d'identité, je n'ai plus le temps, je suis fatiguée, comme toutes les femmes qui travaillent. Et surtout, je ne suis pas là physiquement.
C'est ça.
Et donc, on trouve un petit peu de tout. Maintenant, j'ose espérer qu'à chacun, il y a sa chacune. Et, j'ose espérer trouver quelqu'un qui va accepter, ouais. Qui n'aura même pas accepté, pour qui ce sera évident.
Oui. Absolument.
Je pense qu'on a tous un chacun qui nous attend quelque part. Il ne faut pas faire trop d'efforts. Tant que je cherche mon bonheur et que je ne fais rien de mal, je trouverai forcément quelqu'un qui va fit à ma vie. Et puis, alors, si je devais te répondre aussi très honnêtement, je pense que ce n'est pas un travail à faire à vie, en tout cas pour moi.
Oui.
Je pense qu'il faut donner ces jeunes années. Je trouve que c'est un domaine très endurant, très épanouissant. Mais le poste dans lequel je suis, je pense que c'est pas un poste à faire à vie parce que physiquement, je crois qu'au bout d'un moment, on se fatigue.
Alors, quand tu dis, par exemple, je travaille pendant 6 mois, après je rentre, est-ce que tu te forces à prendre un seul gros projet par an?
Alors, ça dépend. En fait, avant le Covid, on avait beaucoup de projets. Les projets se chevauchaient et s'enchaînaient. Période de Covid, ça a été une période de chômage imposé. Post-Covid, les projets se sont faits beaucoup plus rares à cause du fait qu'on fermait nos frontières et qu'on les rouvrait un peu sans prévenir. Et du coup, on a perdu la confiance du marché international. Et puis là, ça reprend tout doucement. Donc, en général, là, je suis sur un projet donc, de septembre à mars. Et puis, j'ai plutôt une bonne visibilité jusqu'à 2024.
D'accord, c'est bien. C'est bien d'avoir une visibilité. Oui, c'est belle, c'est très bien parce que tu as une visibilité que beaucoup n'ont pas en fait. Même quand on est salarié, etc., on ne sait pas où on sera en 2024.
Vous savez, ce domaine, on est tous un petit peu schizophrènes parce qu'on passe soit du chômage à l'activité très intense,
frénétique, ouais.
Soit on enchaîne les activités très intenses et puis on rêve de chômage.
Ouais.
C'est un peu schizophrène, mais il faut un peu le prendre à la légère. Il faut se dire qu'on travaille dans le divertissement, mais que le boulot n'est pas divertissant. Et d'ailleurs,
absolument.
Ça, les gens sont souvent surpris. Mais mais c'est un boulot qu'on choisit par passion. Et puis, je ne regrette, il n'y a aucun matin où en me réveillant, je regrette mon choix. Il y a un bel épanouissement personnel et puis une récompense personnelle qu'on se dit d'avoir réussi dans un domaine plus ou moins compliqué. Hein. Je pense que tous les domaines ont leurs inconvénients et leurs avantages. Ce domaine, c'est un domaine de passion et il ne faudrait pas s'y lancer si ce n'est pas la passion. Il ne faudrait pas être là pour l'argent parce que l'argent arrive et l'argent arrive bien.
Ouais.
Mais ça ne devrait pas être un moteur parce qu'il y a ces inconvénients qui vont avec.
Hajar Belkacemi, je crois qu'on n'a pas fini de parler de ton expérience. Moi, j'aimerais bien aussi t'écouter, en savoir un peu plus sur ton quotidien professionnel. Mais ça sera dans le podcast Job Story avec Karima, est-ce qu'elle
avec
te contacte par rapport à ça. Voilà.
Hajar, avec grand plaisir.
Merci infiniment. Hajar Belkacemi, merci beaucoup d'avoir été ma femme
merci
d'aujourd'hui.
Merci à toi, Yasmine. Ça a été un plaisir de partager avec toi ma petite expérience dans cette grande vie.
Plaisir partagé. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.